20h, c'est votre rendez-vous scientifique de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre du futur dans l'atome de savoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
Nous sommes en guerre. La Covid est la guerre du moment, mais quelle sera la guerre de demain ? Autour de quelles technologies sera-t-elle construite ? Et surtout, autour de quels enjeux ? Les technologies militaires sont toujours de plus en plus innovantes et en avance sur leur temps. Elles permettent, en cas de conflit, d'assurer une suprématie technique sur l'adversaire. Elles sont un peu, finalement, le nerf de la guerre. Mais nos deux invités aujourd'hui nous aideront à comprendre les enjeux de la guerre du futur. Ce soir, avec nous, Marc Fineau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller principal chargé des questions de prolifération et de désarmement au Centre de politique de sécurité de Genève, et vous êtes aussi ancien diplomate français. Monsieur Emmanuel Kiva va aussi répondre à nos questions, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Agence de l'innovation de défense et membre du comité exécutif de la DGA. En milieu d'émission, nous retrouverons Gaspard qui nous parlera de l'actualité scientifique et on écoute avant l'édito de Jade, un court extrait de la bande-annonce de Robocop.
Et si je vous disais que même les quartiers les plus dangereux de notre pays pourraient être totalement sécurisés ? Comment je le sais ? Parce que c'est précisément ce qui se passe en ce moment dans tous les pays du monde, sauf dans celui-ci. C'est fantastique de voir des machines américaines faire régner la paix hors de nos frontières. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser ces mêmes machines ici, chez nous ? Pourquoi l'Amérique est-elle si profondément robophobe ?
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
La guerre d'hier n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Les États sont constamment à la recherche de nouvelles armes, de nouveaux moyens de se défendre. Même les acteurs des combats ont changé. Je vous propose donc de jouer à un petit jeu avant-après et de comparer les évolutions de la guerre. Nous pouvons commencer avec les changements d'échelle. Avant, la guerre se faisait en fonction de frontières, au niveau d'un pays entier. Aujourd'hui, on assiste à des guerres contre un ennemi caché dans plusieurs pays. La frontière n'est plus le repère. Prenons par exemple le cas de la Seconde Guerre mondiale et comparons-le à celui du groupe État islamique au Maghreb. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France se battait contre l'Allemagne au niveau des frontières pour savoir à qui appartiendraient l'Alsace et la Lorraine. Aujourd'hui, la France se bat contre le groupe État islamique dans plusieurs pays du Maghreb. Changement d'échelle, mais aussi changement d'ennemis. Avant, les ennemis étaient symbolisés par des États entiers. Tandis que maintenant, ce sont des groupes d'individus, souvent terroristes, qui n'ont pas de localité précise. On pourrait penser, par exemple, à Al-Qaïda. Ce changement d'ennemis a obligé les acteurs de la guerre à changer la précision des frappes. Par le passé, on cherchait à produire un maximum de munitions pour tuer le maximum de soldats et tant pis pour les dommages collatéraux. Aujourd'hui, les ennemis sont unitaires ou alors sont représentés à travers des groupes peu importants en taille. Il faut donc les cibler avec précision pour les neutraliser sans victime collatérale. Si on se penche sur les armes que produit MBDA, Société de l'industrie d'armement, on remarque qu'elles sont très précises et bien loin des bombes de napalm qu'utilisait l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Par exemple, le missile Air-Sol MHT, missile haut de trame, est équipé d'un retour image qui permet à l'équipage de choisir le point d'impact du missile sur l'objectif visé. Les changements précités nécessitent toujours un champ de bataille, même s'il est différent. Mais il se peut que même cela ait évolué. Pourquoi la guerre devrait-elle forcément se dérouler sur un champ de bataille ? Maintenant, la guerre peut aussi être numérique. On pense directement au virus Stuxnet, qui, en 2010, a saboté les centrifugeuses iraniennes. L'espionnage a aussi pris une tournure totalement différente. Avant, on envoyait des espions avec un grand risque pour l'État et pour la personne impliquée. Aujourd'hui, la technologie permet d'espionner avec efficacité, sans risque pour le personnel humain. Comme on vient de le voir, la guerre d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'hier. Et l'on peut légitimement se poser la question de ce que sera la guerre de demain. De nouvelles armes, de nouvelles technologies. De nombreuses questions sur cette guerre du futur se posent déjà ou bien viendront à être posées. Les États prennent parfois les devants, comme ce fut le cas pour la France qui a instauré un comité d'éthique en janvier 2020 pour discuter de la question du soldat augmenté. Ce sont des soldats dont les capacités physiques et ou cognitives ont été améliorées par la technologie. Le droit a aussi un rôle important à jouer. Il existe déjà des lois internationales de la guerre, notamment les conventions de Genève qui mettent en place certains droits pour les blessés, les prisonniers, la détention de certaines armes. Toutefois, nous pouvons nous en douter, ces lois vont évoluer en même temps que la guerre. Et c'est aujourd'hui de tout cela que nous allons discuter avec nos invités, en nous demandant à quoi ressemblera la guerre du futur.
l'intelligence artificielle nourrit aujourd'hui tous les fantasmes. Je voudrais vous assurer d'une chose, c'est que le ministère des Armées ne tombera dans aucun de ces excès. Nous choisissons en effet la voie de la responsabilité, celle de protéger à la fois nos valeurs et nos concitoyens, tout en embrassant les opportunités fabuleuses qui sont offertes par l'intelligence artificielle. Nous choisissons de donner à nos forces les moyens de remplir leur mission dans un environnement opérationnel qui se durcit, comme on peut le constater chaque jour. Nous choisissons de renforcer notre capacité à assumer à l'avenir nos responsabilités internationales au profit de la paix et de la sécurité.
Merci beaucoup Jade. Nous allons passer donc aux questions. Donc alors, la première question qui est liée un peu donc à l'innovation et aux technologies de la guerre du futur, ça concerne finalement une arme qu'on a depuis longtemps, l'arme nucléaire. Monsieur Finot, est-ce que l'arme nucléaire a toujours sa place dans la guerre du futur ?
Alors, vous avez raison de dire que c'est une arme ancienne, c'est une technologie qui a plus de 80 ans. Et il faut quand même se rappeler historiquement que c'est Hitler qui souhaitait avoir l'arme suprême pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que, évidemment, l'Allemagne était déjà affaiblie par la guerre et la mobilisation des Alliés. Et donc, c'est pour éviter que cette arme dite suprême tombe entre les mains de Hitler que les États-Unis, à l'instigation de personnalités comme Einstein ou Schopenhauer, se sont lancés dans ce programme massif, le programme de Manhattan, pour se doter de cette arme et en fait l'utiliser contre le Japon à un moment où le Japon était à deux doigts de capituler et surtout qui a été perçu à ce moment-là, en tout cas au Japon et aussi probablement dans le reste du monde, non pas comme une arme révolutionnaire, mais comme une arme encore plus dévastatrice que les bombardements conventionnels qu'avait déjà subi le Japon. Et du reste, d'ailleurs, historiquement, il est prouvé que le Japon n'a pas capitulé à la suite ou à cause de Hiroshima et Nagasaki, mais à cause de l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Et donc tout le mythe de la dissuasion nucléaire a été bâti sur cette idée que c'était une arme tellement épouvantable, tellement destructrice, que évidemment le fait de la posséder allait donner un avantage à ces puissances nucléaires et donc allait empêcher la guerre. Bon, on a vu évidemment au fil des années que il n'a pas pu y avoir de monopole, on n'a pas pu empêcher la prolifération de cette arme, et on peut dire que chaque puissance nucléaire, directement ou indirectement, a aidé une autre puissance nucléaire à acquérir cette arme ou à la mettre au point. Des scientifiques américains ont aidé l'Union soviétique a aidé la Chine a aidé le Pakistan a vendu sa technologie un peu partout, à la Corée du Nord, à la Libye, à l'Iran, et donc tout ce phénomène de prolifération, évidemment, a changé un peu l'optique, le calcul initial. Et chaque fois qu'on ajoute un acteur dans ce domaine, eh bien, on augmente le risque que l'arme nucléaire ne soit plus une arme de dissuasion, mais une arme de combat, comme vous dites, dans la guerre, qu'elle soit actuelle ou future, qu'en plus, on la rende attractive. Surtout quand ceci s'appuie sur un discours, que ce soit le discours nord-coréen ou le discours français, il n'y a pas tellement de distinction, de différence, puisqu'on dit, voilà, c'est cette arme qui empêche la guerre, qui empêche l'agression, qui protège nos intérêts vitaux, et donc on la rend attractive. On dit à ce moment-là pourquoi certains et pas d'autres, et on encourage finalement cette prolifération. Donc est-ce que cette arme a encore une légitimité, une validité, un intérêt militaire? Je dirais qu'il y a deux courants qui le contestent aujourd'hui. Le courant humanitaire qui a replacé cette arme un peu en dehors de l'approche traditionnelle de la sécurité interétatique ou du conflit interétatique pour la replacer dans une approche humanitaire, pour montrer que n'importe quel emploi de cette arme, qu'il soit intentionnel dans une guerre ou accidentel ou terroriste, aurait des conséquences humanitaires dévastatrices, et non pas seulement pour les pays en cause, mais pour l'ensemble de la planète. Et la seconde approche, c'est une approche dite réaliste, c'est-à-dire de dirigeants qui ont été au cœur du système de la dissuasion dans leur pays et qui constatent que militairement, aujourd'hui, c'est une arme inutilisable, dangereuse, et donc qu'il faut il faut l'inscrire dans un phénomène de disparition, d'élimination progressive.
Et donc pour vous, cette arme finalement reste quand même aujourd'hui en 2021 une innovation, ou alors est-ce que c'est une arme qui est vraiment en attente de son utilisation?
Alors, il y a, comme je dis, il y a un phénomène, il y a une vague, un processus qui de plus en plus tend à la rendre illégitime, illégale et destinée à disparaître. Qui se traduit par le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui est le résultat d'une campagne et d'une mobilisation des deux tiers des pays de la planète qui refusent d'être soumis à cette menace nucléaire. Et en plus, vous avez un phénomène parallèle qui est la course aux armements, à la modernisation, à l'augmentation même des arsenaux, comme on voit dans la récente décision britannique ou le processus chinois d'augmentation de son arsenal, et surtout d'un abaissement du seuil de son emploi. Hein, comme on disait, on était plus ou moins rassurés, il y avait tout le discours un peu lénifiant de la guerre froide, disons qu'on a évité la nouvelle guerre mondiale grâce à l'arme nucléaire. Aujourd'hui, on ne peut plus tenir ce discours, parce que, encore une fois, vous conjuguez tous ces facteurs, de multiplication des acteurs, de choix des catégories d'armes avec des missiles tactiques, des missiles hypersoniques, des têtes miniaturisées et même des doctrines d'emploi précoces, hein, comme celle du Pakistan par exemple, ou même celle de la France qui inclut un scénario d'utilisation de l'arme dit de dernier avertissement. Tous ces facteurs auxquels s'ajoute la nouvelle menace technologique, c'est-à-dire les risques de piratage, de pénétration, de détournement des systèmes de commandement et de contrôle, comme l'a montré par exemple la dernière attaque imputée aux Russes, hein, de SolarWinds, qui a apparemment pénétré les systèmes de maintenance et de contrôle des armes nucléaires américaines. Donc tout ceci montre que le risque d'emploi de l'arme nucléaire aujourd'hui est plus élevé que pendant la guerre froide.
Merci beaucoup. Alors, à présent, on va parler, on va quitter un peu le milieu du nucléaire pour parler un peu plus de l'innovation et de la guerre du futur. Donc, les innovations de la guerre du futur, monsieur Kiva, est-ce qu'à votre avis, ça sera d'envoyer des robots ou alors est-ce que ce sera finalement d'envoyer des hommes qui seront protégés, on va dire, grâce à des technologies?
Alors j'ai envie de vous dire que évidemment la réponse c'est les deux. C'est un problème qui n'est pas binaire et d'ailleurs ce sont les deux questions dont s'est saisi le comité d'éthique de la défense qui a été mentionné dans l'éditorial, l'homme augmenté et donc l'homme mieux protégé et la robotique. Alors je vais vous le dire tout de suite très clairement, oui, il y aura des robots de combat. Il y aura des robots de combat et pas uniquement, comme on dit, des robots mules. Vous savez que le robot, ça fait peur, le militaire, ça fait peur. Et donc, pour, on va dire, adoucir la situation, on a tendance à présenter la robotique militaire uniquement sous l'angle de j'ouvre des itinéraires ou bien je transporte des munitions, des blessés, des provisions, etc. Il y aura des robots qui iront au combat. Et tout simplement parce que on ne peut pas envoyer des hommes contre des robots. C'est beaucoup trop dangereux. Il vaut mieux recevoir, envoyer une lettre de félicitations au constructeur d'un robot qu'en envoyer une lettre de condoléances à la mère d'un soldat. Donc, tout simplement parce que nos adversaires en face n'auront sans doute pas les limites éthiques que nous avons nous-mêmes, il est inéluctable qu'on envoie des robots au combat. Pour autant, et on se fixe des limites, on pourrait en parler, mais effectivement, robot ne veut pas dire système d'armes létales autonome qui a la pleine décision de ses actions, et ça je pense qu'on pourra on pourra y revenir. Et quand on parle d'hommes augmentés et d'hommes protégés, là aussi il s'agit de pouvoir, dans des limites éthiques extrêmement claires, fournir des capacités supérieures aux soldats qu'on enverra véritablement sur le terrain. Capacités supérieures en termes de mobilité, par exemple, capacités supérieures en termes de communication et évidemment de protection. On travaille, par exemple, en ce moment sur des gilets balistiques. Alors, les gilets balistiques, c'est ce qu'on appelle les gilets pare-balles, hein, en fait, qui sont constitués à partir de soie synthétique d'araignée. Parce que c'est beaucoup plus léger, c'est aussi résistant que les meilleurs aciers. Et donc ça permet quelque part de protéger le soldat tout en lui permettant de réaliser sa mission. Donc très clairement, quand on parle de protection du soldat, oui, on va avoir des soldats augmentés par des équipements, par des capacités de mobilité accrues. Et vous avez peut-être vu ce que l'on avait organisé il y a quelque temps lors du défilé du 14 juillet avec un soldat qui volait au-dessus des Champs-Élysées. Tout ceci, ça fait partie des pistes de réflexion et c'est une combinaison de ces effets qui caractérisera les engagements du futur. Mais vous comprenez bien qu'on ne va pas envoyer des soldats directement au contact de robots tueurs.
Merci beaucoup. Monsieur Finot, est-ce que vous pensez aujourd'hui, donc dans cette guerre qui se fait aujourd'hui à travers les nouvelles technologies, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la surcouche technologique qu'il y a entre l'homme et l'objet, elle ne vient pas troubler la perception de la situation ? Là, comme exemple, je pourrais donner par exemple le F-35 qui est rempli d'écrans tactiles et qui a un casque à $400,000.
Oui, alors évidemment, là on est effectivement dans une forme aussi de course aux armements sous tous ces aspects où la technologie joue un rôle important et effectivement on voit des situations d'inégalité entre les pays selon leur degré de développement économique et d'investissement dans la défense. Et on a effectivement parfois ce sentiment que la solution, elle est dans la technologie. Alors, tout dépend de justement aussi quel est l'emploi qu'on va faire de cette technologie. Premièrement, d'après vos questions précédentes et l'actuelle, on a le sentiment que la guerre est inéluctable et que certes, le conflit est un peu, je dirais... consubstantiel à l'histoire de l'évolution humaine, mais on n'est pas obligé non plus de se résigner à cette course interminable aux armements et à la technologie. Il y a des méthodes, justement, qui ont été mises au point aussi pour éviter les conflits, pour empêcher la guerre, pour mettre au point des systèmes juridiques pour limiter cette course aux armements ou cette course technologique. Alors, on a parlé effectivement des robots tueurs ou des armes autonomes. Je pense qu'on va y revenir. C'est vrai que la question principale, c'est de savoir si ces armes sont compatibles avec les normes juridiques existantes et notamment les principes du droit humanitaire, par exemple, de distinction entre cibles civiles et militaires, de principes de proportionnalité, de précaution, à tout ce qui permet de protéger les civils et les non-combattants. Donc là aussi, quand vous montrez ces chiffres qui sont astronomiques, bon, vous parlez du coût du casque du F-35, il faut savoir qu'une heure de vol du F-35, c'est $44,000, une heure de vol. Donc c'est l'équivalent. Aujourd'hui, dans cette pandémie, on a parfois un peu envie de comparer avec les autres besoins économiques et sociaux. Une heure de vol de F-35, c'est un an de salaire d'une infirmière dans un pays européen. Donc, voilà un peu les écarts et les disparités qui sont choquantes. Et pour revenir un peu à cette notion de contrôle, d'encadrement de la technologie, encore une fois, il est anormal, il est même interdit que les États investissent dans une technologie, surtout aussi perfectionnée et coûteuse, sans d'abord se poser la question de leurs obligations juridiques. Vous savez qu'il y a un article 36 du protocole de 1977 sur de droit humanitaire qui est, même pour les États qui ne l'ont pas signé ou ratifié, qui est applicable comme une norme du droit coutumier, qui est que avant de développer une nouvelle arme, une nouvelle technologie, il faut vérifier si elle est compatible avec le droit humanitaire.
Merci beaucoup. Monsieur Kiva, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question ?
Absolument, parce que c'est une question qui est totalement centrale. Dans l'introduction, on a entendu la séquence de teasing du film Robocop. Je crois que Robocop est ce qu'il y a de plus éloigné de notre conception de ce que doit être effectivement la couche ou la surcouche technologique au service de l'opérationnel. Alors, il est clair que cette surcouche technologique, elle engendre des effets. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, on a observé, notamment aux États-Unis, chez les opérateurs de drones qui opèrent sur des théâtres d'opération très à distance, qu'il y avait un phénomène de souffrance psychologique, justement lié à cette distance technologique qui s'était instaurée entre le théâtre d'opération et leurs actions. Et d'ailleurs, en France, nous projetons les pilotes de drones directement sur le théâtre d'opération. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas sur le territoire national en allant effectuer des actions en bande sahélo-saharienne, ils sont véritablement sur le théâtre d'opération. Mais ça signifie que finalement, la surcouche technologique, ou en tout cas la technologie, elle doit toujours être au service de l'humain. Et le grand danger, celui sur lequel on essaie d'être extrêmement vigilant, c'est de ne pas distraire l'opérationnel, le combattant, de sa mission. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent le faire, notamment parce que aujourd'hui un pilote est déjà extrêmement occupé, si je prends l'exemple que vous avez pris, extrêmement occupé à gérer les équipements qu'il a autour de lui. Demain, il sera accompagné de drones, il sera accompagné, le cas échéant, de robots au sol. Et donc il va falloir gérer une masse d'informations telle que ça risque de le distraire de sa mission. Même chose sur le fantassin qu'on pourrait imaginer équipé d'une visière type viseur tête haute, ça existe. Pourquoi ce n'est pas encore en service ? Parce qu'on essaye d'identifier justement l'impact de cette technologie sur la réalisation de la mission du combattant. Donc on ne veut pas l'enfermer dans un tunnel cognitif qui soit uniquement centré sur la gestion d'informations, d'une part, et d'autre part, on essaie de faire en sorte que les interactions entre l'homme et la machine soient des interactions dans les deux sens. Autrement dit, à partir de maintenant, on sait que la machine peut regarder l'homme. Et c'est ce qu'on fait. On a lancé un projet, par exemple, qui s'appelle MMT pour Man-Machine Teaming. Interaction homme-machine, c'était destiné à identifier la manière dont, dans le système de combat aérien du futur, le successeur du Rafale, eh bien, l'homme s'insérait dans un cockpit intelligent qui lui permettrait, effectivement, de notamment qualifier son état de charge cognitive. Donc tout à fait concrètement, ça veut dire que la machine va regarder le niveau de stress, le suivi du regard, les ondes cérébrales. Pourquoi faire ? Eh bien justement pour ne présenter que la bonne information au bon moment, voire éviter par exemple les divagations. Quand vous avez un trajet de 800 km, vous avez tendance à penser à autre chose. Eh bien là, c'est peut-être l'avion qui va dire « attention, tu as une mission à réaliser ». Ça serait bien de se réveiller et ça serait bien de rester dans un état de charge mentale compatible avec le reste de ta mission. Donc cette question, elle est centrale et donc on travaille avec des ergonomes, des psychologues, des spécialistes de neurosciences, justement, pour éviter de tomber dans le piège de la surenchère technologique au détriment de l'humain.
D'accord, donc effectivement, on pourrait s'imaginer que cet apport technologique en fait consiste uniquement à mettre des écrans tactiles partout, mais en fait du coup il y a un autre aspect de cette nouvelle technologie qui est vraiment essayer d'apporter finalement beaucoup plus de bien-être et assister vraiment le pilote ou le militaire dans sa tâche, mais toujours dans cette notion de protection même psychologique.
Absolument, absolument. Et puis il ne s'agit pas de multiplier gratuitement les innovations technologiques. Alors par contre on s'adapte. C'est vrai que le pilote du SCAF, je disais, le système de combat aérien du futur, aujourd'hui, il est à l'école. Et comme il est à l'école, il est aussi immergé dans la manière d'interagir avec son environnement, les smartphones, les jeux vidéo, etc. Ce que ne sont pas les anciens qui sont aux commandes aujourd'hui. Et on discutait notamment avec des anciens pilotes de véhicules blindés qui, eux, sont totalement incapables de piloter leur blindé et de tirer en utilisant les écrans qu'on met à disposition. Alors je vous rassure, hein, ce n'est pas ceux qui sont aujourd'hui sur les théâtres d'opération,
je dis
des anciens, et qui préféraient conduire les exercices et conduire les opérations en sortant la tête, parce que c'était, ou en utilisant ce qu'on appelle les épiscopes, qui sont des espèces de périscopes pour blinder. Donc les générations aujourd'hui, et en particulier demain, elles sont déjà habituées à une certaine interaction avec leur système, et donc vont savoir manier un écran tactile, manier un joystick, et ce n'est pas des barrières psychologiques. Et au contraire, ça peut en être pour ceux qui n'y sont pas accoutumés. Mais oui, évidemment, tout ceci est raisonné, et on ne va pas gratuitement, d'autant que la place est comptée hein, dans un système militaire, on ne va pas gratuitement mettre une innovation technologique qui présente beaucoup de difficultés à mettre au point. Parce qu'il faut aussi qu'elle soit compatible des exigences de robustesse militaire. Donc mettre un écran tactile, c'est aussi qualifier l'écran tactile en environnement complexe, c'est être sûr qu'il n'émet pas dans le spectre électromagnétique, etc. Donc on ne va pas le mettre gratuitement juste pour faire joli. Et effectivement, c'est une approche qui est extrêmement cadrée et raisonnée.
Merci beaucoup. Alors, précédemment, on avait parlé des armes autonomes, des robots autonomes. Monsieur Finot, est-ce qu'aujourd'hui, une arme autonome a le droit de prendre la décision de tuer, et est-ce qu'elle aura le droit demain ?
Alors, justement, c'est bien ça la question. Et quand on parle d'armes autonomes, tout dépend du degré d'autonomie. Comme on l'a déjà vu, la question est de savoir si il y a un contrôle humain à un stade de l'opération. Alors, on pouvait dire initialement, ah oui, mais le contrôle humain, il existe puisque c'est un humain qui a programmé la machine. Et donc, on a toute confiance que ce programme permettra à la machine de prendre les bonnes décisions en fonction de la cible et de décider de droit de vie ou de mort de la cible sur la base du programme. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas une confiance suffisante parce que d'abord il peut y avoir des erreurs de programmation et ensuite il peut y avoir des situations imprévues par le programme et donc par la machine avec si on donne une trop grande autonomie à la machine, elle peut commettre des erreurs aussi bien que les êtres humains. Donc toutes les discussions internationales qui ont lieu depuis plusieurs années sur cette question tourne autour justement de cette notion de contrôle humain. On peut dire qu'il y a une sorte de consensus ou de plus petit dénominateur commun sur cette nécessité d'assurer le plus possible le contrôle humain pour que l'arme puisse rendre des services, par exemple aller sur des lieux minés, par exemple, qui mettraient en danger la vie des soldats, mais toujours d'obéir à une décision humaine. Justement quand il s'agit du droit de vie ou de mort de la cible. Je voudrais ajouter un point quand même important, quand même, qui est sous-jacent dans toute notre discussion, c'est cette notion de guerre asymétrique ou de guerre hybride, parce que c'est vrai que ça peut être fascinant de voir toutes ces réussites technologiques. Bon, aujourd'hui, pour schématiser un peu, pour faire court, on peut dire que on a un avion de 110 millions qui va tirer un missile de 10 millions sur une tente de 10 dollars ou un camion de 10 000 dollars. Donc, encore une fois, tout dépend de la situation, de la mission. Et aujourd'hui, on peut se demander si on n'est pas dans le trop technologique par rapport à une situation où, je dirais, on se rapproche plus de l'opération de antiterroriste qui peut avoir lieu sur le sol national que d'une guerre entre ennemis, entre États qui sont, disons, d'un niveau technologique comparable.
Monsieur Kiva, vous souhaitez répondre à cette question ?
Je vais répondre sur les deux plans. Je trouve que, là, effectivement, le dernier commentaire est tout à fait pertinent. Dans le cas d'une guerre asymétrique, que l'on vit aujourd'hui, donc contre un ennemi qui est certes moins structuré, mais qui est quand même extrêmement efficace, on est confronté au fait qu'on a une démocratisation de l'accès à la technologie qui fait qu'aujourd'hui, on voit fleurir sur les têtes d'opération des armes qui ont été conçues en fabrication additive, en impression 3D. On voit apparaître des attaques de drones, et notamment de drones en essaim. Hein, donc, c'est pas de la très haute technologie, mais surtout, c'est pas cher du tout. Et donc, nous sommes confrontés au fait de pouvoir neutraliser des menaces low cost, si j'ose dire, mais avec des approches low cost. Et ça fait partie des pistes qu'on regarde sur les développements dans le cadre de l'innovation de défense. Maintenant, il faut aussi ne pas baisser la garde. Et le chef d'état-major des armées l'a rappelé, la ministre également, on doit toujours être prêt à une guerre entre puissances et donc être toujours en mesure d'avoir une symétrie entre les différents combattants. Et ce serait une erreur d'abandonner les équipements et la recherche et les capacités. Mais on a vraiment deux approches qui sont un petit peu différentes d'un point de vue capacitaire. Maintenant, si je reviens à votre question initiale sur les armes autonomes, alors là aussi je suis d'accord avec ce que M. Finot vient de dire, c'est quoi l'autonomie et c'est quoi une arme autonome? Finalement, un missile, c'est une arme autonome. Hein, on la programme, elle s'en va, elle s'ajuste aux conditions de sa mission et elle réalise sa mission. Le comité d'éthique avait donné des recommandations. La ministre Florence Parly a donné trois lignes rouges très claires dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et en particulier dans le cadre de la robotique. C'est d'abord le respect du droit international, comme on a signalé. Nous, en tout cas, France, respectons le droit international. D'autre part, c'est le maintien, comme cela a été évoqué, d'un contrôle humain suffisant dans la boucle. Et donc là, il y a une petite ambiguïté sur le terme suffisant, mais ça signifie qu'il y aura de toute manière un contrôle humain. Mais un principe que je trouve central, c'est la permanence de la responsabilité du commandement. Autrement dit, on ne va pas donner à une machine le droit de modifier la mission qui lui a été confiée ou de s'assigner elle-même une nouvelle mission. Ça, c'est une ligne rouge extrêmement claire.
Et on a beaucoup parlé, Monsieur Kiva, depuis le début de l'émission, donc d'innovation technologique. Est-ce que finalement l'innovation d'aujourd'hui, c'est pas plutôt la cyberdéfense?
La cyberdéfense, c'est technologique, hein, quand même.
Moins dans le hardware, on va dire.
Voilà, moins dans le hardware. Cela dit, aujourd'hui, vous avez quelque chose qui s'appelle un environnement cyberphysique. Vous avez rappelé tout à l'heure Stuxnet. C'est exactement ça. Tout est connecté, et donc comme tout est hyper connecté, tout devient hyper vulnérable. Donc oui, il y a aujourd'hui un mélange entre le champ immatériel du cyber et les théâtres d'opérations classiques. Et d'ailleurs, si vous regardez les conflits récents, et en particulier les conflits qui se sont produits par exemple au Haut-Karabakh, vous allez voir que à chaque fois que vous avez une offensive traditionnelle, j'allais dire conventionnelle, sur un théâtre d'opération, elle est associée à une opération dans le cyber. Donc effectivement, on a de quoi s'inquiéter si on ne réagit pas. Fort heureusement, on réagit. L'an dernier, nous avions publié les priorités de l'innovation de défense telles qu'elles ont été définies et arbitrées par la ministre. La cyberdéfense en fait partie, et si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que la France s'est dotée d'abord de moyens conséquents, un commandement cyber, un certain nombre d'outils liés à l'innovation dans le domaine cyber, mais également d'une doctrine de cyberdéfense, voire de cyberdéfense offensive. C'est-à-dire qu'on là aussi, on se donne le droit de répliquer de manière proportionnée à une cyberattaque, comme on répliquerait dans le monde réel à une attaque réelle. Et puis vous avez le troisième champ qui est la lutte contre la manipulation de l'information. On a parlé des deepfakes, donc l'utilisation d'intelligence artificielle, en gros, pour faire croire à des situations ou à des propos qui ne sont en fait générés que par une intelligence artificielle. Effectivement, c'est au centre de nos préoccupations. Et donc, dans le milliard d'euros qui est consacré chaque année à l'innovation dans la loi de programmation militaire, vous avez un domaine d'innovation qui est celui-ci et qui bénéficie d'une certaine priorité, effectivement, dans les investissements qui sont consentis.
Je vous remercie. Nous allons tout de suite écouter la chronique d'actualité de Gaspard.
« Attention aux publicités ciblées sur les réseaux sociaux, elles peuvent cacher des logiciels malveillants. Le dernier trouvé par les chercheurs de Proofpoint s'appelle CopperStealer et vous vole vos identifiants et mots de passe relatifs à Google, Facebook, Amazon, Apple, Twitter, PayPal, etc., généralement enregistrés dans votre navigateur Internet. Ce virus est principalement diffusé par de faux sites de crack de logiciels. Eux aussi cherchent à nous débarrasser des virus. Le MIT a récemment mené une étude sur un nouveau type de vaccin contre les infections respiratoires. Oubliez la seringue, ce vaccin est administré par inhalation. L'idée est de cibler les zones par lesquelles le virus arrive dans l'organisme de façon à stimuler une réponse immunitaire très rapide et locale. Les chercheurs ont constaté une très bonne efficacité sur plusieurs virus de ce qu'on appelle le vaccin muqueux. Ils envisagent d'ailleurs de dériver cette méthode de façon à soigner le VIH et même le cancer du poumon. D'ici là, j'espère que nous serons sortis de cette fichue épidémie de coronavirus. Et oui, ici à Paris, on se plaint du confinement, mais lui attend le sien avec impatience. Lui, c'est Thomas Pesquet qui s'apprête à décoller de Cap Canaveral en Floride pour une mission de 6 mois dans la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet voyagera en compagnie de deux astronautes américains et d'un japonais à bord d'un vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Il en sera le commandant de bord. Reste à attendre le 22 avril, date prévue du décollage pour la mission Alpha. Cher Thomas, bon vent. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, la sonde Cassini nous a récemment donné des informations météorologiques sur Titan et conforte encore les hypothèses à l'égard de la principale lune de Saturne. Alors oui, j'exagère un peu parce que Cassini s'est désintégré en 2017, mais les données qu'elle nous a fournies sont encore exploitées et permettent de préciser les hypothèses météorologiques. Voici donc une météo printanière sur Titan, ciel globalement chargé dans l'hémisphère nord avec quelques ondées de méthane par endroit et un épais brouillard d'éthane qui durera toute la journée et vous empêchera certainement d'aller piquer une tête dans un lac d'hydrocarbures ce week-end. Côté température, on respecte les normales de saison avec moins 177 degrés au soleil et moins 179 à l'ombre. Très bonne soirée sur Radio Campus Paris.
So I gotta get to know you all right. Gimme, 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 gimme loving tonight. Well, she's a real cool sister, but I'm thinking she's a little uptight. She's a little like it, but a look. I'm surprised at the time that it took. But it's fine. Tell you what I think is gonna happen tonight. I wanna be a key chaser, never letting you get out of my sight. Name another reason why I shouldn't be a lover tonight. Well, you can turn the speed racer, but he's pulling up a hell of a fight. She's a word.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
Nous sommes de retour dans l'Atome de Savoir pour parler de la guerre du futur. Avec nous, Marc Finot, vous êtes conseiller principal chargé des questions de prolifération et de désarmement au Centre de politique et de sécurité de Genève, et vous êtes aussi ancien diplomate français. Monsieur Emmanuel Kiva est aussi à nos côtés, vous êtes directeur de l'Agence de l'innovation de défense et membre du comité exécutif de la DGA. Donc nous allons reprendre notre entretien à propos de la guerre du futur et nous allons parler maintenant des enjeux de la guerre du futur. Monsieur Finot, si demain une guerre éclatait, cela serait pour quel motif ?
Alors on peut dire que des guerres, il en existe déjà de nombreuses hein, actuellement sur la planète. On peut voir que historiquement, il y a une évolution pratiquement depuis la fin de la guerre froide, c'est que le nombre de conflits interétatique entre les États a disparu, enfin en tout cas beaucoup diminué, dans ce que les guerres directes. Par contre, le nombre de conflits internes, des guerres civiles, a augmenté de manière spectaculaire, avec évidemment souvent des implications, des interventions extérieures étatiques. Donc on a aujourd'hui un système de conflits beaucoup plus hybrides, beaucoup plus éclatés, beaucoup plus fragmentés, avec des acteurs étatiques, des gouvernements, mais aussi des groupes armés, des groupes terroristes. Aussi, on voit le changement majeur qui est intervenu au fil des siècles, puisque lors de la Première Guerre mondiale, 90% des victimes étaient des militaires et seulement 10% des civils. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les militaires, c'est seulement 10% et les civils, 90%. Donc, forcément, on est dans une situation tout à fait nouvelle. Et cette guerre, elle prend évidemment des formes différentes, soit des formes traditionnelles de bataille, entre États ou entre groupes armés utilisant des armements conventionnels, voire parfois des armes de destruction massive, donc comme les armes chimiques. Et encore une fois, les principales victimes, ce sont des civils. Donc, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui à dire, voilà, on déclare la guerre, on entre dans une phase nouvelle. Les motifs des conflits, ils sont multiples. La plupart des conflits internes sont dus, par exemple, comme on le voit au Moyen-Orient, à des phénomènes de gouvernance, de rejet de systèmes autoritaires, dictatoriaux par des populations souvent dans des pays fragmentés, qui sont un peu l'héritage des frontières coloniales, qui se préoccupaient peu de la répartition entre différents groupes ethniques ou religieux ou ethniques. Regardez la division du Liban, de la Syrie, de l'Irak, par exemple. Et on a évidemment aussi, comme on le voit en Afrique, beaucoup de conflits qui sont, sinon causés, en tout cas qui sont instrumentalisés, qui sont exploités, perpétués par les interventions extérieures, d'États ou d'intérêts économiques hein, qui veulent profiter des richesses naturelles de ces pays, ou aussi par le lobby ou le complexe militaro-industriel dénoncé déjà par l'ancien général Eisenhower quand il a quitté sa présidence au début des années 60. Donc voilà, toute une série de motifs aujourd'hui, et c'est difficile d'y voir très clair. Et donc c'est un défi pour la communauté internationale pour justement déployer des efforts pour prévenir, empêcher ces conflits, les gérer quand ils existent, quand ils se déroulent, et notamment pour protéger les civils. Et troisièmement, pour trouver des solutions, pour résoudre, pour mettre un terme à ces conflits.
Vous avez parlé un peu notamment donc de diplomatie dans cette idée d'éviter les conflits. Et est-ce que finalement l'enjeu de la guerre de demain ne serait pas avant tout un enjeu diplomatique pour éviter la guerre ? Et justement, quels sont les moyens que nous avons actuellement pour éviter la guerre ?
Non, c'est, je dirais, la fonction principale de la diplomatie, qui est de développer les relations entre les États, entre les pays, d'une manière pacifique, en développant les intérêts économiques mutuels, par exemple, les solidarités et la coopération multilatérale face aux menaces qui affectent tout le monde, les menaces transnationales, comme le changement climatique, ce terrorisme justement dont on a parlé, qui n'a pas de frontières, ou les pandémies, par exemple, dont nous sommes victimes aujourd'hui. Donc, tous ces moyens doivent être mobilisés pour donner une primauté, une priorité aux actions collectives, coopératives, multilatérales, face à la tentation qui existe toujours de la politique de puissance, de l'unilatéralisme, dont on a vu l'illustration avec la présidence Trump. Comme disait d'ailleurs le sociologue américain Noam Chomsky, on a toujours deux mondes qui coexistent. Le monde d'avant qui était fait sur les relations de puissance et la compétition, la défense des intérêts nationaux, notamment à travers la puissance militaire et la guerre, et le monde multilatéral. Alors, certains diront de manière un peu sarcastique que c'est un monde de bisounours, où la communauté internationale n'existe pas, elle est faible. Mais là encore, c'est une question de mobilisation, de moyens. Et on voit aujourd'hui que on est sorti d'un monde interétatique, puisque les États, certes, restent les acteurs principaux de la société internationale et du droit international notamment, mais ils ne sont plus les seuls, ils n'ont plus ce monopole. Il y a des groupes, des acteurs non étatiques, qu'ils soient pacifiques ou comme les ONG humanitaires, ou hostiles comme les groupes criminels ou terroristes, mais aussi les entreprises multilatérales, multinationales, les grandes forces économiques. Et donc, la seule solution, évidemment, c'est une approche de partenariat entre tous ces acteurs, y compris dans le domaine de la prévention de la guerre, qu'on voit par exemple, puisqu'on parle de pandémie. Certains ont dit oui, c'est un virus qui a été manipulé dans un laboratoire, c'est une arme biologique. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que ce soit le cas, mais le fait est que ce risque existe potentiellement, et donc il a fait l'objet de discussions à l'intérieur du cadre de la Convention sur les armes biologiques, où depuis des années, on assiste à ce dialogue, ce partenariat entre gouvernement, communauté scientifique, industrie, société civile, justement pour promouvoir une protection, une préparation des sociétés face à une menace biologique, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle soit naturelle, accidentelle ou intentionnelle. Parce que si on a des sociétés qui sont mieux préparées, qui sont vaccinées, qui ont suffisamment de moyens hospitaliers, de personnel, de santé, on sera capable de réagir et donc de rendre moins attrayante l'emploi délibéré des armes biologiques.
Monsieur Kiva, on avait commencé à parler un petit peu de l'évolution des champs de bataille dans notre édito. Alors, on imagine que dans la guerre du futur, finalement, le champ de bataille se déplacera. Où sera-t-il ?
Alors, c'est une question qui est extrêmement difficile, parce qu'il y a ce que l'on voit aujourd'hui, et ce que l'on pressent aujourd'hui, et ce que l'on essaye d'anticiper pour demain et après-demain. Pour aujourd'hui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est clair que la guerre se déplace. Se déplace ne veut pas dire qu'elle abandonne les champs de bataille traditionnels, parce qu'on voit bien qu'une opération peut finir en guerre urbaine, peut finir en guerre ouverte, mais on a ces champs immatériels que sont le cyber et la désinformation qui sont concernés. Mais on a aussi d'autres milieux qui, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, étaient plutôt accessibles uniquement à des États, et dont on peut imaginer qu'on essaye de nous interdire accès. Par exemple, le domaine spatial. Il se passe énormément de choses en orbite aujourd'hui, qu'il s'agisse de petits satellites qui viennent un peu trop près des nôtres pour écouter notamment les émissions électromagnétiques, qu'il s'agisse de tentatives de certains États d'imaginer de neutraliser des satellites ou au moins leur charge utile en orbite. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'il y a quelques semaines, il y a une semaine d'ailleurs, s'est tenu un exercice sous le commandement du commandant de l'espace qui s'appelle Astérix, qui justement avait pour thème la guerre en orbite. Et vous avez peut-être entendu le discours de la ministre des Armées où elle a reconnu qu'il y avait un danger et que nous nous donnions également les moyens de réagir à ce genre de danger. Et donc on a par exemple des programmes aujourd'hui de recherche et de développement qui visent en gros soit en orbite basse mais surtout en orbite géostationnaire à doter nos satellites de capacités de défense, soit par de la protection de satellites garde du corps, si j'ose dire, donc des nanosatellites patrouilleurs, soit par des capacités, ou une combinaison des deux, par des capacités d'action des satellites pour leur propre protection, hein, pour aveugler, par exemple, un autre satellite qui s'approcherait. On a parlé de l'espace, on peut parler du fond des océans, et donc il y a un terme consacré qui est le seabed warfare, aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre qui consisterait à pouvoir, par exemple, intercepter, voire neutraliser des câbles de communication sous-marins. Donc ça, ce sont de nouveaux espaces, effectivement, de conflictualité, sachant que la guerre, c'est toujours une combinaison des effets, donc une combinaison de ces espaces. Donc ça, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on voit. Et puis demain, justement, on n'en sait rien. Et tout le problème et toute notre difficulté, c'est de prévenir la surprise stratégique. Et on l'a bien vu, la surprise stratégique, elle est toujours possible, par exemple, la pandémie que nous vivons actuellement. Donc si je pose la question, on fait de la prospective hein, au ministère des Armées, la prospective est très organisée, mais la question, c'est quoi la guerre en 2060, elle est compliquée en tant que telle. Et trouver une réponse va être difficile si on continue à penser de la même manière. Et donc nous avons décidé de déclencher une expérimentation en se disant quelles sont les communautés qui peuvent nous aider à anticiper les futures sociétés et partant les futures menaces auxquelles nous aurions à répondre. Et donc nous avons engagé une expérimentation en demandant aux auteurs et dessinateurs de science-fiction, donc une équipe qu'on a appelée la Red Team pour des raisons historiques, d'imaginer les scénarios de sociétés ou de guerres ou de conflictualités à l'horizon 2060. Pour nous permettre de, j'allais dire, rétropédaler en 2030 et, partant de cela, de pouvoir imaginer quelles sont les réponses que l'on pourra dès aujourd'hui apporter. Et donc, cette expérimentation Red Team Défense a commencé et ils vont produire 2 scénarios ou 3 scénarios par an. Puisque, comme le disait Asimov, vous savez, la science-fiction est la seule branche de la littérature qui se soucie des réponse de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Ce qui signifie que ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement de prévoir les armes du futur ou les voitures volantes, c'est plutôt de prévoir les embouteillages.
Et pour toujours parler donc du savoir-faire, de la technique militaire, un peu en lien avec notre première partie, est-ce qu'aujourd'hui tout le savoir-faire militaire n'est pas plutôt détenu par des entreprises privées que par l'État ? Et est-ce que c'est dangereux, monsieur Kiva ?
Alors, le savoir-faire militaire, en tout cas en France, est détenu à la fois par les grandes entreprises qui constituent ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de défense. Fort heureusement, il est aussi détenu beaucoup par l'État, et on est un des seuls États d'ailleurs à avoir une direction générale de l'armement qui, justement, exerce une expertise technique et donc a le savoir-faire et la connaissance du savoir-faire militaire. Donc, en France, très clairement, non. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que, on parlait tout à l'heure de l'accélération, de la démocratisation de l'accès à la technologie, on voit émerger des acteurs qui sont aujourd'hui des acteurs transnationaux, qui vont transcender les États, les GAFAM, les BATX pour les Chinois, qui, eux, maîtrisent des technologies qui peuvent être dérivées pour un usage militaire. D'ailleurs, je parlais de la Red Team, mais un des scénarios pourrait être une guerre entre crypto-États, ou en tout cas États virtuels, ce qui serait des États privés immatériels. Ça pourrait tout à fait être imaginable. Quand vous regardez le budget de recherche et développement de grandes sociétés comme Apple ou Huawei, ça se chiffre en dizaines de milliards. C'est-à-dire que Huawei, en puissance de développement de R&T, a autant que le tiers du budget de la défense. Donc effectivement, c'est quelque chose que l'on regarde de très près, il faut être vigilant, d'autant plus qu'on voit apparaître dans certains pays, notamment aux États-Unis, des sociétés qui, d'elles-mêmes, ont décidé de développer une capacité de production d'armes sans avoir pour autant de commandes de l'État. Alors ça, c'est pas du tout le cas en France, mais c'est effectivement des choses que l'on regarde, que l'on contrôle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a une bonne collaboration entre les grands industriels, de la base industrielle et technologique de défense, les PME et start-up qui, elles, apportent des briques technologiques qui peuvent être dérivées pour un usage militaire, et le ministère des Armées, via la Direction Générale de l'Armement, l'État-Major des Armées et l'Agence Innovation Défense, pour que tout ceci soit un tout cohérent, finalement, et que ça ne parte pas dans tous les sens.
Monsieur Finot, j'ai une question un peu plus ouverte pour terminer. Sur la guerre du futur, sur ses enjeux, et sur en fait sa raison d'être, entre guillemets, est-ce que vous pensez que la guerre du futur sera liée à notre mode de consommation ?
Alors tout d'abord, peut-être pour revenir sur la question précédente, c'est clair qu'on assiste à un phénomène de privatisation de la sécurité depuis plusieurs décennies. C'est pas nouveau, hein, que les gouvernements préfèrent réduire leur propre dépenses militaires, en tout cas sous-traiter, sous-contracter avec des entreprises privées qui vont soit se livrer à des activités non militaires, ne sont pas impliqués dans les combats, soit au contraire privatiser une partie de ces activités de combat. Et là, on voit évidemment de grosses entreprises, de gros intérêts, comme on l'a vu par exemple en Irak pour les Américains, les entreprises comme Blackwater, qui deviennent un peu des États dans l'État. Donc, on a Wagner, en tout cas pour la Russie, qui est évidemment largement, qui est privé, mais qui est largement piloté par l'État russe. Et en tout cas, le risque, c'est effectivement que les États soient dépassés. Et donc, il importe qu'ils soient vigilants, qu'ils maintiennent une réglementation nationale et internationale pour encadrer ces activités qui doivent être aussi compatibles avec le droit des conflits armés. Quant à la guerre du futur, là encore, on est peut-être un peu toujours dans la conjecture ou dans la prospective, et c'est vrai que la technologie y jouera un rôle croissant. La question est de savoir en fait pourquoi des États se lancent dans des conflits ou dans des guerres. Est-ce que c'est pour asseoir une domination politique, économique, comme on l'a connu dans le passé avec les empires et les empires coloniaux, ou si c'est une simple compétition, hein, pour on est dans une guerre économique, donc pour savoir qui finalement profitera le plus de cette domination économique. Bon, la question après, c'est les intentions. On prête par exemple à la Chine des intentions agressives, dominatrices, qui peuvent en tout cas être vérifiées, en tout cas une certaine analyse peut justifier cette approche, mais on peut avoir une analyse complètement différente, qui est une approche défensive, un peu aussi celle de la Russie qui se sent inférieure par rapport à l'époque glorieuse de l'Union soviétique, et donc qui tombe dans une forme de paranoïa alimentée par le complexe militaro-industriel, et donc il va essayer de reprendre la main de manière un peu plus agressive. Donc voilà, toute la question est de savoir se battre dans l'avenir, mais pourquoi ? Et si c'est pour maintenir, protéger une forme de liberté, de régime démocratique, de niveau de vie, peut-être que la compétition économique suffira, qu'on n'aura pas besoin justement d'aller jusqu'à l'affrontement qui aura forcément des conséquences négatives sur ce niveau de vie et sur peut-être aussi sur notre régime démocratique.
Je vous remercie à tous les deux, c'est la fin de notre entretien. Merci beaucoup Marc Finot. Je rappelle que vous êtes conseiller principal chargé des questions de prolifération et de désarmement au Centre de politique de sécurité de Genève et que vous êtes aussi ancien diplomate. Merci beaucoup Emmanuel Chiva d'avoir été à nos côtés. Vous êtes directeur de l'Agence de l'innovation de défense et membre du comité exécutif de la DGA. On revient le 22 avril pour une nouvelle émission de l'Atome de Savoir. En attendant, vous pouvez nous écouter sur le site de Radio Campus Paris et sur Spotify. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux, Instagram et Twitter. Ce soir, à la réalisation, c'était Gaspard Delaruelle et notre attaché de production, c'est encore et toujours Johanna Blin. A très vite sur Radio Campus Paris, restez curieux et portez-vous bien.